Chers auditeurs, la convention qui remplace l'Assemblée législative le 21 septembre 1792 a été désignée par une minorité d'électeurs, des révolutionnaires extrémistes qui ont envoyé à Paris des élus à leur image. Ceux-ci vont constituer à l'Assemblée des groupes d'enragés qui vont se combattre et s'exterminer mutuellement. D'octobre 1793 à juillet 1794, sous couvert de défense de la patrie, ils vont instaurer un régime dont le nom dit bien ce qu'il était, la terreur. Fouché, qui en fut un partisan et un acteur convaincu, dira dans ses mémoires « Au paroxysme de la révolution et de la terreur, on ne gouvernait plus qu'avec le fer qui tranchait les têtes. » En réalité, le pouvoir est aux mains des 58 représentants que le Comité de salut public, émanation de la Convention, a nommés et répartis dans toute la France. Ils vont mettre en œuvre, avec une sévérité accrue, la politique de déchristianisation voulue par la Convention. C'est ainsi qu'à Bayonne arrive le 2 octobre 1793 deux de ses représentants en mission, Jacques Pinet, un protestant, ardent montagnard, et Monestier du Puy-de-Dôme, un ancien chanoine de Clermont-Ferrand. Ils ont été envoyés auprès des armées occidentales, car la guerre a été déclarée entre la France et l'Espagne. Mais ils ne vont pas s'occuper que des questions militaires. Ils vont adopter et appliquer au Labour et en Basse-Navarre le programme de déchristianisation mis au point par la Convention, en suivant d'ailleurs l'exemple de leur maître et modèle, Fouché, qui, lui, se fera remarquer surtout à Lyon par son zèle impitoyable. C'est dans chaque village que les représentants devaient porter la terreur. Il leur faudra pour cela disposer tout d'abord sur place au poste de responsabilité d'équipes sûres et de révolutionnaires convaincus. Ceux qu'ils trouvent à leur arrivée ne l'étaient pas. Les représentants vont donc renouveler le directoire du district d'Ustaritz, des municipalités vraiment acquises à la Révolution vont remplacer celles de plusieurs communes, en particulier celles de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, que Pinet et Monestier trouvaient trop modérées. Ils vont exercer sur la région une dictature sans pitié, d'autant plus terrible que le salut de la patrie était en jeu et le danger partout, avec une population facilement soupçonnée de connivence avec l'ennemi espagnol. Les prisons se remplirent de suspects et la guillotine se mit à fonctionner. En même temps, Pinet et Monestier poursuivaient la déchristianisation du Pays basque intérieur. En fait, il avait commencé avant leur arrivée. Comme partout, à partir de l'instauration de la République le 22 septembre 1792, on s'était mis à compter les années à partir de cette date et on avait adopté le calendrier élaboré par Fabre d'Églantine. Décadie avait remplacé le dimanche. Mais il semble que le calendrier de la République n'ait pas eu un franc succès au Pays basque, surtout pas celui d'un notable sous-le-temps qui avait traduit en basque ce calendrier de la République. Il ne faisait pas l'affaire des ouvriers qui devaient attendre 10 jours au lieu de 7 pour prendre un peu de repos. Et à Saint-Jean-de-Luz, un arrêt municipal va ordonner que l'on travaille les 6 devants jours de fête et des dimanches. Pour se libérer du fanatisme et de la superstition, le fanatisme c'était la foi et les dogmes chrétiens, et la superstition c'était les divers rites et démarches du culte officiel ou populaire. Pour s'en libérer donc, il fallait commencer par changer le nom des communes en particulier celui des communes qui étaient sous le patronage d'un saint. Saint-Jean-de-Luz devient Chauvin-Dragon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Nivefranche, Saint-Jean-le-Vieux, Franche. À Saint-Étienne-de-Baïgorry, on trouve des hellénistes distingués qui vont l'appeler Thermopyle, rien que ça. Mais les autres communes vont subir le même sort. Ustaritz devient Marat-sur-Nive, Sars la Palomière. Briscus reste basque et s'appelle désormais Iribéri, de même Ainhoa qui devient Mendiarté. Les symboles insupportables du fanatisme et de la superstition, c'était bien sûr les lieux de culte. Ils ne pouvaient être tolérés par des hommes qui avaient, comme on disait, abattu la forêt des préjugés. Il y eut quelques scènes de vandalisme, surtout à Bayonne. La cathédrale et l'église Saint-Étienne en firent les frais. C'est ainsi que disparurent les statues qui ornaient les portails d'entrée nord et ouest de la cathédrale. Même à l'intérieur de l'édifice, des hommes raisonnables ne pouvaient supporter ce témoin de la superstition qu'était la chasse de Saint Léon, le patron de la ville. Elle fut enlevée et, selon le procès-verbal qu'on en dressa, des os furent brûlés avec d'autres os au pied de l'arbre de la liberté. Besogne d'autant plus nécessaire, dit encore le procès-verbal, qu'elle renversera tous les sots préjugés dont les calotins et les calotines sont imbus. De cette œuvre de salubrité devaient bénéficier également les clochers et les sacristies des églises. Il suffisait de garder une seule cloche pour le tocsin. Les autres devaient aller à la fonte pour en faire des canons. Les armées de la République en avaient besoin. Il fallait vider les sacristies et envoyer ornements et linge d'autel au district où tout était répertorié et expertisé pour la vente. Cependant, la municipalité de Nivefranche, de Saint-Jean-Pied-de-Port donc, avait demandé que tout le linge qui servait au culte fût envoyé à l'hôpital militaire afin de le faire servir au pansement pour les défenseurs de la patrie. Quant aux vases sacrés et aux autres objets du culte, l'or et l'argent serviraient à battre monnaie. Calice, ciboire et ostensoire des églises de Basse-Navarre étaient envoyés à Saint-Palais, où tout était également inventorié avec précision et même minutie. C'est ainsi qu'on sait qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, on avait trouvé à la sacristie 6 calices, 6 patènes, 3 ciboires, 3 soleils, c'est-à-dire 3 ostensoirs. Au labour, c'est à Ustaritz que ces objets furent rassemblés. Bien évidemment, on en avait fait l'inventaire aussi méticuleusement qu'à Saint-Palais, et le tout aboutit à l'hôtel de la Monnaie à Bayonne. C'est ainsi qu'à Saint-Jean-de-Luz, on avait récupéré 14 calices avec patènes, dont 3 d'argent doré. 6 ciboires, dont 3 d'argent doré. 3 ostensoirs d'argent doré. 8 boîtes, 1 encensoir, 1 couronne en morceaux. 3 petites croix d'argent doré, plus les bijoux dans l'argenterie susdite. Tous ces inventaires ont été gardés dans les archives. On reste confondu et triste à la lecture de ces procès-verbaux contenant des listes interminables de vases sacrés enlevés aux églises, pertes irréparables pour le patrimoine religieux du Pays basque. Cette razzia sur les objets du culte donna lieu à Itsassu à un épisode que la tradition a pieusement retenu. La générosité de l'un de ses enfants avait doté l'église paroissiale d'un jeu de vases sacrés en argent massif, richement doré et orné de pierres précieuses. Avant de partir pour l'exil, le clergé prit soin de dissimuler ce trésor et d'en confier la garde à la fidélité d'un instituteur de la paroisse nommé Pierre Iharour. Celui-ci crut bien faire en mettant dans la confidence 2 autres paroissiens. Malheureusement, l'indiscrétion ou la dénonciation de l'un d'eux révéla aux révolutionnaires l'existence de ces objets. Ils fouillèrent de fond en comble la maison de l'instituteur sans rien trouver. Ils lui firent subir le supplice du feu. Pierre Hilarour ne révéla pas son secret. À la réouverture du culte, Pierre Hilarour porta lui-même le trésor à l'église au milieu de l'assemblée des fidèles. En récompense, il lui fut attribué la charge de sacristain à vie. Nous verrons la prochaine fois ce que fut l'église constitutionnelle au Pays basque.